Chers auditeurs, bonjour. Vous allez vivre une émission difficile, ou peut-être pas, parce que nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Éric Toledano et Olivier Nakache pour la sortie de leur nouveau film, Une année difficile. Il est déjà visible depuis quelques jours dans plusieurs cinémas et il est ce soir dans Opening Weekend. Ravi d'être avec eux. On enchaîne tout de suite, c'est le générique.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Opening Weekend, non pas enregistré au 7 Batignolles comme le veut la tradition, mais dans les bureaux de la société de production d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Ten Productions. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Ravi d'être avec vous quelques jours seulement après la sortie de votre nouveau film, Une année difficile. À mes côtés pour en parler, eh bien, Tom Abrami. Salut Tom.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Arthur Pawlowski, salut Arthur.
Salut Aurélien, bonjour.
Et Julien Bernard, salut Julien, à qui je vais tendre le micro.
Bonjour tout le monde.
Je le disais, nous avons le plaisir d'être dans vos bureaux, des bureaux d'ailleurs très agréables, ma foi. Et c'est évidemment un euphémisme de dire que votre film était attendu, parce qu'on sait hein, déjà 7 films qui ont fait à eux seuls plus de 30 millions d'entrées dans les salles, et une tournée, on va en reparler dans quelques instants, qui s'est étalée sur plusieurs mois, avec à la clé eh bien, pas loin de 80 000 spectateurs, je crois, en tout cas c'est plus de 70 000. On va évidemment parler de tous ces chiffres dans quelques instants, mais comme le veut la tradition, un mot d'abord Julien sur... non d'ailleurs c'était Arthur qui doit faire le petit cafouillage. Julien sur le box-office international.
Alors on va commencer par le box-office US. Donc ce week-end ça a marché à 80 millions de dollars de recettes. La semaine dernière c'était 132, c'était l'effet Taylor Swift. Il est toujours présent mais il a quand même perdu, si je ne me trompe pas, moins 31%. Alors Michael Jackson, This Is It, ça avait perdu moins 43% ou Justin Bieber avait perdu 55%. Donc au total il est à un cumul de 129 millions de dollars aux US et 164 millions worldwide. On avait aussi la sortie de Killer of the Flower Moon. Alors lui qui est premier sur le box-office international, mais deuxième, voire monde, mais deuxième sur le box-office US avec un démarrage, on va dire un petit peu léger, avec 23 millions de dollars aux US. C'est moins 14% par rapport à The Departed qui avait ouvert à 26 millions. Shutter Island, lui, il avait ouvert à 41. Et on avait le Loup de Wall Street, lui, qui avait ouvert à 18 millions. Et puis si on part sur les films, même avec DiCaprio, Django, c'était 30 millions, The Revenant, 40 millions. Donc vous voyez, c'est légèrement en dessous. Et au global, au worldwide, on est, Aurélien, si je ne me trompe pas, à 44 millions de dollars, dont 47% à l'international.
Oui, et ce qu'il faut préciser quand même sur ce film, et on le reprécisera aussi pour la France, c'est que c'était un presque, d'une certaine façon, une tentative jusqu'à présent inédite d'une plateforme de sortir un film sur une aussi grosse envergure de salle, puisque c'est, on le rappelle, un film Apple, que c'est le premier d'une série de 3, le deuxième sera Napoléon et le troisième Argyle, qui sera lui distribué par Universal. Et donc, forcément, ces chiffres étaient étudiés à la loupe, et malgré cette petite déception que tu peux pointer, aux États-Unis tout du moins, ça reste l'un des tout meilleurs démarrages de la carrière de Scorsese, ce qui tente à laisser penser que c'est quand même d'une certaine façon une première réussite, même si on reparlera évidemment tout à l'heure aussi des chiffres France à mettre en parallèle avec les précédents films de DiCaprio ou de Scorsese. Arthur, tu voulais aussi enchaîner?
Oui, avec la vraie surprise de cette semaine, donc il ne s'agit pas d'un film US, mais d'un film indien qui est premier à l'international. Il s'agit du film Léo qui démarre avec un box-office de 29 millions de dollars à l'international et au domestique 2 millions de dollars. Donc en Inde, ce qui en fait un démarrage à 31 millions, c'est tout simplement le premier de la semaine.
Et ce Léo, eh bien, on va en reparler. Hein. On l'avait évoqué comme ça en disant la semaine dernière qu'on ne savait pas trop d'où il sortait. Il a encore fait créer la surprise, on va le voir même en France, surtout dans certains sites. Là encore, on va vous préciser tout ça dans le box-office France. Mais à signaler également que dans ce box-office international, dans le top 10, on retrouve eh bien, quelques films chinois, dont un nouveau, Only the River Flows, sorti uniquement en Chine, qui était présenté à Cannes cette année dans la section Un certain regard, donc sélection officielle, et il est suivi, et donc il fait 12 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal juste sur le territoire chinois, et suivi de Under the Light, dont on a déjà parlé, le nouveau film de Zhang Yimou, qui totalise 173 millions de dollars à l'international, et Volunteers to the War, là aussi on en avait déjà parlé, qui lui franchit le cap des 100 millions. Donc des films US, un film indien et trois films chinois. Voilà pour ce qui constitue, encore une fois, cette cartographie hebdomadaire du box-office international. Mais sans plus attendre, il est temps de s'orienter vers cette sortie, cette année difficile. Et pour cela, je laisse la parole eh bien, à Tom, qu'on n'a pas encore entendu aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Déjà, messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous accueillir au micro. Julien, je te laisse démarrer.
Allez, à moi l'honneur pour la première question. Donc, comme le disait Aurélien, il y a eu une tournée hors norme. Plus de 150 cinémas entre mai et octobre. Donc, sur Débris Films, on avait d'ailleurs relayé, je crois qu'on avait appelé le Méliès de Bayeux pour voir un petit peu l'ambiance qui s'était passée. Et vous qui avez l'habitude du contact avec les salles, est-ce que vous avez trouvé un changement? Est-ce que c'était une tournée un petit peu différente des précédentes?
Ah, nous, on a trouvé que quand on est arrivé dans les salles, l'accueil était, je pense, post-Covid, plus chaleureux qu'il ne l'a jamais été. Il y avait comme un désir mutuel de se voir, de discuter, de se parler. On a fait vraiment plein de sortes de cinéma, plein de niveaux d'exploitation. Je garderai en mémoire une énorme tendresse pour les cinémas associatifs, tenus par parfois des personnes âgées, mais des fois 50 bénévoles avec une ambiance carrément électrique où je ne sais pas si vous pouvez imaginer Jonathan Cohen et Pio Marmaille arriver au milieu des tartes aux couèches, des pâtés et des alcools locaux et des fromages locaux. Mais il y a eu une chaleur de retrouvailles pour moi, qui était post-Covid. C'est-à-dire, on ne s'est pas vu depuis longtemps, on s'apprécie mutuellement et on est heureux et on se le dit. Voilà, ça, c'était génial. Et on discute et on débat et tout le monde n'est pas d'accord et tant mieux. Voilà ce que j'ai ressenti.
Et le côté événementiel, évidemment, qui plaît de plus en plus et comme vous le dites, post-Covid, est-ce qu'il y a une image en mémoire qui vous est restée, une ou deux, quelque chose de spécial pendant cette tournée?
Oh, il y a tellement de choses qui nous sont restées. Moi, c'est la variété, c'est-à-dire passer, comme je dis par exemple, d'un village comme Castelmauroux à côté de Toulouse, où il y a 300 personnes dehors et quand on arrive, on nous dit non, ça c'est les gens qui n'ont pas pu rentrer, tellement il y a des gens à l'intérieur que c'est électrique et que c'est un petit cinéma où objectivement la taille de l'écran est pas beaucoup plus grande que celle que vous avez des fois chez vous, mais une chaleur, une sympathie. Non, mais qu'est-ce qu'on a pu avoir comme image folle?
Patrick Janit à Castelmauroux, oui. qui est l'exploitant de la salle et qui fait un travail exceptionnel sur à chaque fois qu'il reçoit des gens, et même si on confie les simples avant-premières, même sans équipe, il fait un travail exceptionnel.
Bah oui, c'est ça qui nous a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'on arrivait dans des petites villes, à Landerneau, à Lannion, c'est des mono-écrans. Et tu vois une salle pleine, y a un cinéma à Saint-Malo qui est dans une cathédrale, qui est dans une église transformée en cinéma. C'est des endroits fantastiques. Et c'est vrai qu'on voit les gens, les bénévoles, qui sont des passionnés, tout comme nous, des cinéphiles. Et c'est l'amour du cinéma qui nous relie. Et on voit la joie qu'ont les gens de nous voir et de débattre avec nous. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est win-win. L'échange est gagnant pour tout le monde parce que c'est vraiment fantastique d'aller voir déjà d'une part. Vous avez aussi une visibilité sur comment on grandit vos autres films. Et ça, c'est génial parce que nous, on ne regarde jamais dans le rétro. Et quand on arrive dans une ville et on nous parle de nos jours heureux, du sens de la fête, et on voit comment ces films ont grandi, ont maturé, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très, très, très plaisant.
Justement, en parlant de la manière dont les films grandissent et maturent, vous avez terminé par une tournée périph' et ensuite une tournée parisienne, dans un contexte social et politique qui est différent du moment où la tournée a commencé, mais également différent du moment où le tournage a eu lieu. Comment le film a changé dans votre tête aussi, la manière dont il représente quelque chose pour vous désormais?
Je dirais qu'heureusement que c'est un huitième film, parce qu'on est moins inexpérimenté. Je pense qu'un film, c'est une chimie, on le sait, vous le savez peut-être mieux que nous encore, de la date de sortie, c'est quelque chose qu'on ne décide pas à l'avance et on ne sait pas dans quel climat on va sortir, météorologique, social, anxiogène, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je pense que le film, il a changé de nature. C'est-à-dire qu'il était là pour créer le débat, pour faire en sorte que les gens ne soient pas derrière un écran, mais qu'ils se parlent en live, en vrai, qu'on soit pas d'accord, mais qu'au moins on soit pas derrière des écrans. Et puis, plus comme c'est une comédie et qu'on a la chance que le public réagisse bien en termes de rire de salle, je crois que dans ce climat-là, il a changé de nature, et ne serait-ce que par les messages qu'on a reçus ou par les réactions du public qui nous disaient à la fin, bon, ça nous sort de ce quotidien et vous nous offrez une bulle de respiration de 2 heures. Donc il faut accepter le destin d'un film comme il faut accepter quand on fabrique un film qui est des impératifs ou des impondérables et qu'il faut les épouser. Là, on n'a pas, il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est comme un vélo qui s'adapte au moment où la route monte, on pousse un peu plus fort. On doit s'adapter. Le terrain est ardu. Objectivement, le terrain est ardu. C'est compliqué à l'extérieur. Il y a pas mal de raisons, entre guillemets, de ne pas trop aller au cinéma parce que on n'est pas forcément bien dans ses baskets avec tout ce qui se passe, et en même temps ça change de nature, et face à peut-être à l'obscurantisme et à la terreur, se retrouver entre nous, ça fait du bien, rire ensemble, ça fait du bien. Donc changement de nature avec une adaptabilité forcée, comme dirait Jean-Pierre Bacri dans Le Sens de la Fête, on s'adapte.
Alors, on voit beaucoup de présidents présenter leurs vœux en introduction du film, avec comme phrase d'accroche, qui est également le titre de votre film, Une année difficile. On part donc du principe que sur les 50 dernières années, voire depuis la nuit des temps, c'était toujours mieux avant. C'est quoi votre point de vue, votre sentiment là-dessus ?
Notre sentiment, c'est qu'au 15e siècle, il y avait deux mecs qui se parlaient et qui disaient c'est dur, et l'autre il répondait surtout en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de moment facile. Et moi, je me rappelle surtout d'une phrase qui avait créé pas mal de commentaires dans Thérapie, la série. Il y avait quelqu'un qui disait au psy, j'ai l'impression que le monde s'effondre. Et Philippe Dayan, le psy interprété par Frédéric Pierrot, répondait, le monde s'effondre depuis toujours. Et il y a une forme de fatalité au fait que le monde s'effondre depuis toujours. D'ailleurs, on a suivi un conseil d'un des maîtres, on l'a souvent dit, de la comédie, qui est Billy Wilder, qui disait, quand vous êtes vraiment déprimé, faites une comédie. Au moins, vous entendrez les gens rire et ça vous fera peut-être du bien. Et c'est un peu comme ça que des fois, on se construit. La comédie, c'est pas quelque chose de léger, en vérité. C'est quelque chose de, c'est presque une forme de tristesse déguisée, une forme de tristesse maquillée, avec une certaine élégance pour pas l'imposer aux autres. Mais je pense celui qui fait une comédie est aussi lucide sur le monde qui l'entoure. Donc voilà, je me suis un peu éloigné de la question.
Ça veut dire que ça veut dire que notre prochain film, ça va être une comédie. Parce qu'en ce moment, quand même, on a des raisons d'être déprimé. C'est la politesse du désespoir.
En tout cas, on ne pensait pas avoir autant raison en appelant ça une année difficile.
Vos films, ils occupent dans la société et dans la tête des gens une place à part. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, les gens, ils vont voir le nouveau Nakache et Toledano. Quand ils arrivent en caisse, ils demandent une place pour le Nakache et Toledano. Et c'est des films qui passent de génération en génération. J'ai des films comme Tellement Proche, il y a des gens qui n'avaient même pas l'âge de le voir au moment où ils sont nés, qui le découvrent aujourd'hui.
Nos jours heureux aussi.
Nos jours heureux également, avec toujours autant de plaisir. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous saisissez et c'est quelque chose que vous comprenez, que vous expliquez ?
Alors déjà, on le saisit mieux grâce à la Tournée Province. Parce que objectivement, comme le dit Olivier, on n'a jamais trop regardé en arrière. D'ailleurs, on a essayé d'être assez productif. Hein. On a fait un film tous les 2-3 ans, la série. On fait des documentaires. On fait d'autres choses aussi dans nos vies personnelles. Donc on ne regardait pas trop. Par contre, quand vous faites cette tournée, peut-être que c'est un moment de répit que vous vous offrez aussi, que vous offrez aux spectateurs. Et souvent, on a reçu des messages, merci de la considération pour le public d'aller dans tel village, dans tel. Mais en vérité, c'est un peu aussi égoïste parce qu'on s'en rend compte à ce moment-là. Parce que voir des gens qui ont 18 ans nous parler de Nos Jours Heureux qui est sorti alors qu'ils avaient un an, c'est quand même avoir une longévité pour un film qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même dans nos plus grands délires. Parce que les films, ils passent. Il y a tout un tas de films qui passent aux oubliettes. Celui-là passe à la télé chaque année et il est encore dans le cœur des gens. Donc ça nous touche. On essaie de pas trop y réfléchir parce qu'on est dans l'action, etc. On se dit que chaque succès est un miracle et qu'il n'y a aucun succès qui est mérité. Ou chaque succès, c'est un miracle. Donc, quand on repense maintenant au Sens de la Fête qui a fait 3 millions, 200 000 entrées, quand on pense à Hors Normes qui parle d'autisme et qui a fait des succès, c'est des miracles. Et voilà. Et on voit aussi que le marché n'est pas toujours au rendez-vous, que là c'est un peu plus complexe. On espère que le film va transpercer quand même pour arriver à toucher le public, mais en tout cas nous on aura toujours la même attention et intention, c'est-à-dire essayer de toucher les gens, bouger les regards, faire rire, divertir. C'est le métier qui est le plus beau au monde. Bon voilà, on s'expose, les gens disent tout ce qu'ils veulent sur nous, mais nous au moins on est très heureux de ça. Oui, on a conscience qu'il y a des films qui sont restés, mais on espère ne pas trop s'attarder là-dessus, parce que finalement essayons d'en faire d'autres.
En tout cas, on voit qu'il y a une cohérence. On voit qu'on est toujours dans un même sillon et que les films sont cohérents de l'un à l'autre. C'est ça aussi, c'est comme une corde à nœuds et c'est pas disparate. En tout cas, avec celui-là, Une année difficile, ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens nous reconnaissent aussi. Et donc ça veut dire qu'on est fidèle à ce qu'on est et qu'on y met toute la sincérité de film en film. Et en même temps, c'est différent, mais c'est pareil, mais c'est différent. C'est ça aussi... C'est ça aussi qu'on aime bien.
Je vous confirme que ça passe de génération en génération, parce qu'il y a à peine 3 jours, avec mes enfants, on a regardé Nos Jours Heureux. Ils ne l'avaient pas vu. Et là, on ira voir. Je les emmènerai voir Une année difficile. Très bien. Et qu'est-ce qui vous fascine à chaque fois lors de confrontations d'univers différents? C'est quoi? C'est le vivre ensemble? Parce que ce n'est pas vraiment des gens opposés, mais c'est vraiment des gens différents. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, il faut qu'ils se comprennent. Donc cette confrontation, elle existe beaucoup dans vos films.
Et ça crée la dramaturgie, ça crée le romanesque, ça crée évidemment aussi la comédie. L'harmonie, elle vient aussi des dissonances, des différences.
Il faut que tu sortes ta phrase que quelqu'un t'a dit à Bourgoin-Jallieu, qui était un journaliste qui nous a dit une phrase qui nous est restée.
L'ennui naquit de l'uniformité.
Voilà.
C'est un philosophe Oudette de Rouard, je crois, voilà. Qui s'appelle comme ça, il faudra vérifier, ou un historien.
De la tournée, voilà, qui dit c'est un journaliste l'ennui, qui nous a dit ça. Ouais. Il a dit, quand je vois vos films, je pense à cette phrase, l'ennui naquit de l'uniformité. Eh bien, ça répond un peu à la question. Finalement, c'est par nos différences qu'on s'enrichit. Effectivement, si tout le monde pensait pareil, on se ferait un peu chier. Et c'est vrai que c'est des zones de frottement. J'ai bien aimé sur l'année difficile de dire que, parce qu'il y a beaucoup de Valls et il y a beaucoup de Jacques Brel dans le film, c'est que c'est une danse des contraires. En fait, de façon un peu symbolique, on danse les uns avec les autres. C'est pour ça que la danse, ça nous fascine à ce point-là. Et cette danse-là, c'est la danse qu'on fait dans notre passage sur Terre. On danse avec nos contraires. Et c'est ce qui nous fait vibrer, je trouve.
Comme vous le disiez, vous êtes plutôt régulier au niveau de vos productions, que ce soit séries, documentaires, films, tous les 2-3 ans. Toutefois... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous vous nourrissez entre films, entre vos films, comment naissent des envies. Elles sont plutôt littéraires, elles sont plutôt cinématographiques, elles sont plutôt musicales.
C'est essentiellement des légumes. C'est vraiment des légumes, c'est du végétarien, des bons produits, des produits locaux, on se nourrit voilà, de ça. Mais non, vous voyez, il y a des livres, là, vous voyez, il y a des livres qui sont là sur le bureau, on se nourrit de plein de choses. De livres, de documentaires. On revoit d'autres films. On revoit des films qu'on a déjà vus 50 fois, qu'on revoit. C'est comme ça que ça fonctionne. On relit des choses qu'on a écrites avant et qu'on n'a jamais été au bout.
C'est comme une boîte à idées. Il y a des tiroirs avec des idées. L'idée, des fois, elle est bonne. On en parle pendant 2 jours, puis on la range. Et puis comme ça, 2 ans plus tard, d'ailleurs Intouchable est resté. C'est marrant, c'est un DVD à l'époque. Hein,
le DVD pour les gens les plus jeunes.
Qu'est-ce qu'un DVD
qui ne connaissent plus.
Qu'est-ce qu'un taille-crayon? c'est un DVD qui est resté d'une émission de Ballet Masque de Mireille Dumas, qui est resté peut-être 3 ou 4 ans dans un tiroir. Et ce me rappelle, c'est quand on est sorti tellement proche, on rangeait nos affaires, parce qu'on aime bien ranger. Une fois qu'on a fini un film, on commence à ranger les scénarios.
T'as vu, c'est rangé là.
Et là, c'est propre.
La pochette, elle est là. Regarde, c'est la pochette jaune là qui est là.
Voilà.
C'est là-dedans qu'il y a plein de trucs qu'on a écrits.
Et donc, on avait ressorti comme ça ce DVD. On a dit, tiens, peut-être qu'on le revoit ça. Donc, il y a une cumul d'idées. Là, par exemple, on est en train de retravailler une idée qu'on avait travaillée avant. Et voilà, c'est une bêche, c'est comme l'agriculture, il faut prendre la terre et la retourner pour voir ce qui pousse.
On revient aux légumes, ça germe, ça croît. Non mais tu vois, c'est la culture. On est dans les mêmes.
Que tous les termes qui parlent finalement de culture sont en référence à l'agriculture. Les idées germent, on est cultivé, voilà.
Bienvenue sur France Culture aujourd'hui.
France Culture. Non,
mais c'est vrai, une idée ça germe, c'est la même chose. Ouais. Tu vois Tom, on prend des trucs, on revient aux légumes.
Vous m'avez perdu.
Ah, oh, c'est pas grave, écoute.
Non, c'est parfait. En plus, c'est exactement ça. On se nourrit, en tout cas, les uns des autres. Au niveau musique, justement, comment vous opérez vos choix de musique? C'est décidé bien en amont. Vous savez exactement quelle musique vous allez mettre ou c'est vous avez l'image, vous mettez la musique? Et la deuxième question, ce sera juste votre collaboration parce que j'avais noté avec Grand Brother que vous aviez déjà pris sur Hors Normes et qui est à nouveau là sur une année difficile.
Ben, les musiques, elles sont très présentes à l'écriture. Elles sont expectées, elles ne sont pas toujours obtenues, mais elles sont rêvées. Elles sont placées dans les oreillettes au moment des scènes quand on les écrit pour voir un peu comment ça fonctionne déjà entre nos cerveaux, la musique et le texte qui arrive. Il y a une stimulation de la musique vers l'écriture. En tout cas, c'est comme Olivier tout à l'heure disait, on revoit des films. On a besoin de nourrir l'artistique pour arriver dans l'artistique. C'est un peu comme... Vous savez, l'écriture, c'est un peu comme la gymnastique. Là, par exemple, on n'a pas écrit depuis longtemps. On va s'y remettre, on va réussir à être productif 2 heures dans la journée, puis 3 heures. Il y a des jours en fin d'écriture où on peut arriver à écrire 8 à 9 heures par jour avec plaisir. Mais c'est comme des sportifs qui sont des sportifs, je dirais, de haut niveau, qui arrivent à s'entraîner 10 heures. Nous, en fait, c'est une mécanique de gymnastique et la musique fait partie du stimuli. Et après, oui, on essaye de coller ça. Et puis alors, peut-être il y a des musiques qui restent et qui reviennent au montage. Et une fois qu'elles sont au montage, bah, on ne peut plus les enlever. Donc, on les achète ou alors on les fait fabriquer. Et pour Grand Brother ?
Grand Brother, oui, on a eu une expérience fantastique avec eux sur Hors Normes. Et dès les premières secondes du montage, qui était d'ailleurs dans la pièce à côté, pour tout le générique début, on a mis une chanson référence de Grand Brother qui s'appelle Sonic Riot. Et elle a été impossible à enlever. Donc on les a appelés et on est retourné à Zurich et parce qu'en fait on prend des musiques qui sont existantes et on les réadapte en fonction du montage. Et c'est ça, c'est une partie qu'on adore, c'est d'être avec les musiciens et de les voir réorchestrer leur musique en fonction de notre film. C'est là où la rencontre se fait.
C'est un rapprochement artistique entre leur univers et le nôtre. Pour nous, on mélange des musiques existantes plus que faire fabriquer des musiques. On n'a pas réussi encore à trouver notre Philippe Sard.
Notre Francis Lay.
Vous savez que nous, chez Débris Films, ce qu'on aime, c'est les chiffres.
C'est vrai.
Oui, c'est encore ça.
On aime donner du sens aux chiffres et on n'est évidemment pas passé à côté du fait que vous avez déjà, en 7 films, réalisé plus de 30 millions d'entrées.
Ça paraît tellement abstrait comme chiffre.
C'est vrai. Ça fait plusieurs fois le Parc des Princes, donc.
C'est ça. Ça fait plus d'une saison entière du Parc des Princes.
Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous avez un rapport aux chiffres déjà?
Il faut savoir un truc quand même, c'est que tous les matins, on regarde les chiffres. Pas uniquement quand il y a une sortie d'un de nos films. Tous les matins, on regarde les chiffres de tout le monde. On s'est abonné et on adore regarder les chiffres. Donc nous aussi, on a ce point commun avec vous. On aime regarder comment le marché.
Mais on aime la signification qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu honte de dire, comme ça peut arriver parfois dans le cinéma français, de dire que nous, on aime les salles pleines et qu'on veut qu'il y ait des gens dans les salles. C'est pas, c'est arrivé qu'on fasse, par exemple, quelque chose en se disant, peu importe s'il y a du monde ou pas, c'était en thérapie. Il se trouve qu'on a été sur Arte et une des rares questions qu'on a posées au patron d'Arte, c'était est-ce que vous déprogrammez s'il n'y a personne devant ? Bon, il se trouve que ça a aussi bien fonctionné, plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais les chiffres, pour ce qu'ils représentent, non. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un amour de la salle pleine et comme on fait les comédies souvent, on aime les rires de salle. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nourrit l'écriture, ce rire des gens qui se mélangent. Il y a quelque chose d'assez sain à entendre des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur tout dans la vie, qui sont peut-être d'opinions politiques différentes, de classes sociales différentes, mais que ça se mélange. Il y a quelque chose qui nous rassure, comme on est inquiet dans la vie en ce moment et en général, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et donc c'est vrai que plus le nombre de gens qui rient, on a fait l'avant-première au Rex, il y avait 2500 personnes, plus la qualité de ce rire mélangé nous intéresse. Mais même quand ça ne rit pas, et je me rappelle pour Hors Normes, les quelques secondes qui peuvent suivre la fin d'un film, par exemple dans Hors Normes, les quelques secondes avant que les gens retournent dans leur vie, rallument leur portable, ces secondes d'attention qui sont très 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 recherchées, puisque le marché de l'attention, c'est celui que les réseaux et que les data, les GAFA veulent opérer sur nous. Ces quelques secondes d'attention, elles sont précieuses aussi. Donc parfois, ça peut être aussi un silence, qu'on trouve une captation d'attention qui est très belle. Donc ces moments-là marchent avec des grandes salles et des belles salles. Donc oui, les chiffres, on y porte une attention sans être névrosé, parce qu'on a le droit aussi à ce que parfois ça marche moins, et ça arrivera. Ça ne sera pas un problème, mais en tout cas, notre but, ce sera quand même toujours qu'il y ait beaucoup de monde.
En tout cas, on préfère parler en entrée qu'en million dollars.
Ah, ça, on est bien d'accord.
Parce que vraiment, aux États-Unis, je trouve ça, je ne sais pas, il y a quelque chose de limite de vulgaire, quoi, de mercantile, business, de dire ouais. Million dollars, million...
C'est en entrée, c'est les gens. De l'exception culturelle,
d'ailleurs,
c'est ça, ouais.
C'est qu'en France.
C'est qu'en France.
C'est qu'en France.
C'est parce que nous, quand on a fait Intouchable, beaucoup d'endroits où on arrivait dans le monde avaient marqué sur leur affiche le truc qui a fait tant de million dollars. Et c'était faux, parce que nous, on avait fait des entrées.
Mmh. C'était en francs aussi.
Au niveau des records, on reste encore avec des films d'animation de 1938 qui sont à 18 millions d'entrées. Alors c'est vrai que si on parlait en euros, il serait bien plus bas dans le classement. Mais c'est je vrai. Suis d'accord que on n'arrive pas et on n'arrivera jamais, c'est peut-être justement à changer cette entrée en recette, même s'il va sûrement y arriver à double niveau.
À double, oui, bien sûr. Bien sûr.
J'avais deux, trois questions un peu plus légères. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste parler de vos duos à l'écran, parce que c'est vrai qu'après François Cluzet et Omar Sy, après Vincent Cassel et Reda Kateb, aujourd'hui on retrouve Jonathan Cohen et Pio Marmaille, un duo qui respire la complicité. Je voulais savoir s'ils ont toujours été en tête pour vous, ces duos développement des films.
En général, tu veux dire
maintenant, on ne peut plus les imaginer, ces films.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ils existent fort, mais non, on l'a souvent dit, il y a des duos qui ont bougé. Hein. On a proposé Intouchable à Daniel Auteuil. C'est finalement François Cluzet, et on n'imagine absolument pas le film autrement qu'avec ces deux acteurs-là. Là aussi, pour une année difficile, il y avait Alban Ivanov qui était prévu au début. Boum, c'était plus possible pour lui de faire le film. Jonathan Cohen est arrivé. Voilà, ça fait partie des aléas de fabrication d'un film. Et on n'imagine plus une année difficile sans Jonathan Cohen qui a le film maintenant à sa tête, à son visage définitif. Peut-être que dans le 2, on ira voir Alban.
Donc on termine juste pas sur un ton un petit peu plus léger.
C'était léger quand même là.
Mais bien évidemment. Ah, oui. Mais
encore plus léger.
Encore plus léger.
D'accord. Exactement.
On va parler couture et mode.
Non, quelques questions se rapprochant avec les films à l'affiche. Par exemple pour vous Olivier, si vous étiez dans le règne animal, vous verriez la mutation d'Eric en quel animal et inversement.
Ah ouais. Alors dans le règne animal que j'ai trouvé, j'ai vraiment été très impacté par ce film. Eric en quel animal?
Un oiseau.
Un oiseau, oui, mais je pense à un animal qui n'est pas dans le film. Parce que ce qui vient à l'idée tout de suite, c'est ça pourrait être un oiseau, mais quelque chose qui ne serait
vous
pas dans le film.
Vous avez le droit de faire Joker. Hein.
Non, je vais trouver.
Un dinosaure.
Non, pas un paresseux. Non.
Bah, dans le film, la mère elle devient un paresseux.
Ah, mais je me suis demandé ce que c'était.
Alors, j'ai fait des recherches sur internet.
T'es sûr?
C'est un paresseux meets un ours.
Ouais, voilà, je pensais à un ours.
Vous venez de tout spoiler pour les gens qui n'avaient pas vu le film.
Non, mais c'est au début du film.
Moi, je dirais un moment pour te souffler un lion, parce que c'est un...
Ah oui, j'allais le dire un lion.
Ah bah voilà.
J'allais dire un lion. Ouais. Un lion, d'ailleurs, il n'y en a pas dans le... Par contre, j'ai pas vu, à un moment donné, il y a un personnage qui arrive dans un éclair, dans la porte, là.
Oui.
J'ai pas réussi à trouver l'animal.
On le revoit après.
Ouais. Oui, mais on le revoit,
avec
mais... Et les yeux très loin.
Oui.
Je sais pas qui c'est. J'ai pas compris ce que c'est comme animal. Vous renseignerez.
On se renseigne. Si Bernadette Chirac avait été présidente, aurait-elle dit aussi « Vous allez vivre une année difficile ».
Oui, mais avec un tailleur de chez Karl Lagerfeld. Et, donc,
Pièces jaunes.
Et des pièces jaunes et David Douillet derrière. Donc tout ça aurait été beaucoup plus classe.
Évidemment. Et si vous étiez un expandable, vous seriez plutôt Sly, Dolph Lundgren, Schwarzy, Harrison Ford ou Bruce Willis.
Je t'arrête, ce sera Sly.
Sly de très 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 loin.
Ça fait partie des rencontres qu'on a faites un jour au Festival de Cannes un midi. Et là... On a fait, je ne sais pas, une série de 76 photos avec lui.
Ah
ouais. On était des fans. Si tu veux, quand on a découvert Rocky en VHS dans sa chambre et qu'on l'a regardé 64 fois de suite et qu'on a été s'inscrire à la boxe le lendemain, on peut pas aimer quelqu'un d'autre.
Ça fait partie des films avec Die Hard, Piège de cristal, qu'on voit en VF. Et ça, c'est assez rare. D'ailleurs, on peut les revoir en VF.
Petite pensée pour Polly, qui
Bert
est mort.
Jung.
Bert Jung, qui est mort cette semaine. Et qui disait avec cet accent dans le film français, dis donc, Rocky, t'aurais pas du boulot pour un vieux copain.
Pourquoi tu parles de ma sœur comme ça?
Parce qu'en plus, ils sont de très bons imitateurs. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. On peut préciser quand même à ceux qui vont voir le film après nous avoir écoutés, qu'ils peuvent discuter avec vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est quoi le...
Toledano Nakash.
Voilà, Toledano Nakash. Et vous répondez, je le sais, quasiment à chaque message.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas rien et ce n'est pas, je pense, le cas de tous les réalisateurs aujourd'hui. Alors, on va... tu voulais enchaîner, Arthur, sur un petit quiz aussi tout de suite. Alors, le quiz alors, fait par Max, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement.
On l'embrasse.
Absolument, Aurélien, t'as raison, c'est le fameux quiz de Max, donc j'enchaîne avec celui qui a été fait par Julien. Donc c'est des petites questions qui vont toucher les chiffres sur les films actuellement à l'affiche, dont le vôtre.
Mais là, on peut répondre aussi, nous.
Absolument.
Ouais.
Alors, du coup, vous êtes balèze, vous.
J'ai une première question en rapport avec le film de Scorsese et sa muse, sa nouvelle muse DiCaprio. Après Scorsese, avec quel réalisateur Leonardo a fait le plus de films? Ça, c'est une question.
Tarantino.
Il y a une égalité.
Celui qui est d'origine pas mexicaine mais sud-américaine, qui a fait Birdman.
Cuaron,
non, pas du tout.
Non, il y a une égalité entre deux. Il y a le premier qui a été
Inarritu.
Baz Luhrmann.
Inarritu. Ah, Baz Luhrmann.
Tarantino.
Tarantino, ouais.
Tarantino. Okay.
Ouais. C'était les deux.
Bonne réponse. Hein. Bonne réponse.
Bonne réponse que j'ai dit 10 trucs qui étaient faux, donc bonne réponse.
Ah oui, c'est
en ce qui concerne Jonathan Cohen et Pio Marmaille, lequel des deux a fait le plus d'entrées? Est-ce que vous le savez, ça?
Pio a fait le plus de films, ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Mais il a Astérix dans les pattes, Jonathan.
Jonathan, il a Astérix dans les pattes et il a fait des entrées.
Ça se joue pas loin.
Ça joue pas loin.
Je pense que c'est peut-être Jonathan, parce qu'il a fait beaucoup de films.
Ça sera Pio Marmaille en premier, merci. Avec 6,9 millions d'entrées au total. Wow. Et Jonathan Cohen qui suit avec 5,8 millions d'entrées.
Ah ouais.
Et on retourne vers Rocky, n'est-ce pas, Julien? Après deux semaines d'Expandables, on en est à 230 000 entrées. Pouvez-vous me dire quel est le film de la saga Rocky qui a fait le moins d'entrées?
Ah oui.
Le 6.
Moi, je dirais le 5.
Le 5 ou le 6?
Moi, je dirais le 5, moi.
5 ou 6.
Ça va être surprenant, mais tu prends le numéro 2.
Ah bon? Ah oui, peut-être qu'il a pas mal. Ah,
318
c'est vrai
000 entrées, suivi de Rocky Balboa, qui se trouve être le 6, 1,1. Non, suivi de l'original, 664 000 entrées. Rocky Balboa 1,1, Rocky 5 1,3, Rocky 3 3 millions et Rocky 4 4,9 millions.
Énorme. Qui n'est pas le meilleur pourtant. Alors là...
Ah c'est fou quoi, le 2...
Non, le Duty, il est bien, le 4.
3.
Ce qui veut dire que le phénomène Rocky n'avait pas pris...
Non mais il a pris grâce au vidéoclub après.
Ouais, c'est ça, il a pris à la fin des années 80.
Tout à fait.
Quand le 4
le gap entre le 2 et le 3 est quand même de 2,7 millions d'entrées.
Il est temps... Ah, alors attends, je veux dire que vous avez quelque chose.
Parce que quand tu sais que le 2, il fait 330 000 et de refaire un 3 qui va faire 3 millions, c'est assez dingue.
Mais le 2 avait peut-être bien marché aux États-Unis.
Peut-être.
Et quelqu'un a refait ça plusieurs décennies plus tard, c'est Vin Diesel qui a relancé Fast de la même manière.
Comme quoi, c'est tout se recoupe. On va voir si dans le box-office français, ça se recoupe. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
C'est beau cette boîte.
C'est qui dit là, toi, donc
eh bien, c'est Alain Attal. On rappelle que c'est un petit mix de différentes interviews qu'on a faites au 9h des Halles sur Débris Film. Et c'est Max Marjolais qui, encore une fois, n'est pas là. Max, on pense à toi, qui a fait le petit mix. Donc voilà, je laisse la parole à Tom qui va nous dire un petit peu où ça en est sur le côté marché. Je crois qu'on a passé les 2 millions au week-end.
Alléluia, on y est. Mais en tout cas, ça se redresse, mais ça se redresse. Gentiment, hein, Julien, la reprise, elle est là, mais c'est progressif. En tout cas, on a un marché en progrès de 4,4%, avec plus de 2,3 millions d'entrées au week-end en France. C'est bien, mais Julien, c'est pas assez.
C'est pas suffisant. On est encore loin des chiffres classiques sur cette période. Et c'est vrai qu'on en parlait juste avant l'émission, on est en dessous de 2022 et 2021, et ça c'est un signe malheureusement qu'il nous manque quelques entrées, puisque vraiment la moyenne elle se situe autour de 2,7 millions, on termine à 2,2 millions, 2,3 millions. Il y a deux semaines qui arrivent qui vont être ultra importantes, on attend au moins 8 millions d'entrées, presque minimum pour rentrer dans les clous, en tout cas pour atteindre cette barre, parce qu'on a toujours quand même cet objectif, si on prend d'un point de vue général, de 180 millions à la fin de l'année. Donc il va falloir y aller, parce que c'est vrai que le mois de septembre a été compliqué, que ça fait 2-3 semaines aussi, mois d'octobre, on sort les rames. Donc là, ça serait bien que tout se relâche, hein, et puis que les gens foncent dans les salles surtout.
En tout cas, une chose est sûre, c'est les nouveautés, encore une fois, qui drivent le marché. Et alors là, va s'ouvrir un débat sur la première place. Je vois Aurélien sourire parce que est-ce qu'on inclut ou pas les avant-premières pour parler de la première place ?
J'aurais tendance à dire oui, mais bon.
Alors,
j'aurais tendance à dire qu'on fait comme on veut.
J'aurais tendance à dire que, étant donné que Martin Scorsese n'est pas dans la salle, on va faire ce qu'on veut.
Et Martin, il va nous. Et en même temps, ces entrées-là, on ne les a pas chippées. On a été les chercher.
C'est un débat qu'on a déjà eu. Si on parle de cumul au week-end, il n'y a plus débat. Si on parle de cumul au week-end. Mais après, c'est cumul. Est-ce qu'on parle du cumul entre mercredi et dimanche ou
à partir
cumul
du moment
du film,
où on intègre les avant-premières sur le premier week-end, elles font partie. Il y a eu du boulot avant, il y a eu 150 dates. Il faut bien qu'elles apparaissent. Ça a toujours... C'est comme si on arrêtait de parler en entrée, en fait.
C'est ça.
Donc, à un moment, on les met dedans. Pour moi, les avant-premières font partie du premier week-end.
Eh bien, dans ce cas-là, si c'est ça, c'est une année difficile qui démarre en tête ce week-end avec 345 000 entrées au total pour le film Gaumont. Alors, on peut le comparer à un démarrage proche, notamment du Jouet, l'année dernière. Mais Aurélien, tu as d'autres comparables à nous donner peut-être ?
On peut aussi le comparer, alors ça remonte à 2021, mais au démarrage d'Eiffel qui était sorti un peu à la même période. Mais c'est après difficile hein, pour l'instant d'extrapoler puisqu'on est sur une période pré-vacances, en tout cas sur le moment où on a pris les chiffres. Les vacances commencent réellement aujourd'hui. Il y a des jours fériés qui arrivent. Il y a un fort potentiel. On l'avait souligné, je pense qu'il faut aussi le redire à quel point les films qui sortaient la semaine dernière étaient... clairement dans l'un des mercredis les plus importants de l'année, que là on a encore un mercredi très important. On passe je crois en moyenne d'une semaine à 3,5 millions pour aller vers une semaine à 5 millions en moyenne sur les 5 dernières années. Donc le marché va monter. Là aujourd'hui c'est difficile de faire des projections, d'autant plus si on regarde les carrières de films français de ces derniers mois. On voit bien parfois qu'après un démarrage un peu en deçà parfois de ce qu'on aurait pu espérer, le film monte grâce au bouche à oreille.
Non, juste, mais c'est trompé, Tom. Je suis désolé. Le Jouet, il avait fait 183 000 entrées au week-end. Donc, on va plutôt se rapprocher des chiffres de La Vie pour de vrai, dont tu parlais tout à l'heure, ou encore de Mon Crime.
Voilà. Donc, pour l'instant, évidemment, on va suivre ça de très près. Tu le disais, hein, score très serré entre les trois principales nouveautés, et notamment Killers of the Flower Moon, qui lui fait 328 176 entrées sans avant-première, ou presque, puisque je crois qu'il n'y avait qu'une avant-première, mais c'était au Normandie et c'était à peine ouvert au public. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce démarrage de Scorsese ?
Résultat en demi-teinte, mais qui est en corrélation aussi avec le marché. Alors, si on prend des comparables, on va prendre beaucoup de comparables pré-Covid, qui ne sont pas forcément très pertinents, mais on est sur un moins 40% par rapport à Gatsby le Magnifique, moins 63% par rapport à Once Upon a Time in Hollywood. Qu'est-ce qu'on a de proche, Julien ? On a peut-être un Fableman qui est assez proche, ouais, en effet, en termes de démarrage. Merci Arthur. Voilà. C'est quand même, on va le dire, relativement positif aussi vu la durée du film, et notamment les entrées mercredi, jeudi, vendredi, parce que Julien, Aurélien, on pouvait aussi se poser des questions de savoir est-ce que les gens avaient 3h30, 4h à libérer dès mercredi, jeudi, vendredi pour aller voir le film. La réponse est oui. À ce niveau-là, c'est plutôt une satisfaction.
En fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est que c'est peut-être le plus gros événement cinéma US depuis le fameux Barbenheimer, et que du côté d'une difficile, c'est tout simplement le meilleur démarrage pour un film français depuis le mois d'avril dernier. Donc en réalité, on est sur un marché où on a deux films qui ont créé l'événement à un niveau où le marché est aujourd'hui, et à un niveau qui malheureusement, tu le disais tout à l'heure, mais pas assez élevé par rapport
c'est
aux
ça.
Attentes.
Et il faut le dire, on en a beaucoup parlé au mois de septembre et début octobre. À un moment donné, on avait assez peu de choses à dire parce que les semaines se suivaient, se ressemblaient, et le marché était très 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 bas. Alors, comme je l'ai dit au début, ça progresse, mais ça progresse lentement. Aujourd'hui, la réalité de ce marché-là, elle est celle-ci, mais les spectateurs, appelons les spectateurs, on va être forcément sur des semaines qui vont aller de mieux en mieux.
Et surtout après ce podcast qui est écouté, je crois, par 7,8 millions d'auditeurs.
On espère.
Voilà, ça va envoyer, ça va inciter les gens à aller au cinéma.
Si tous ceux qui vous suivent nous écoutent, ils sont au moins 7,8 millions, ça c'est sûr. Alors ensuite, l'autre nouveauté, c'était bien sûr les Trolls 3 du côté d'Universal, où là aussi, je crois qu'on attendait peut-être un petit peu plus d'entrées au week-end.
Ouais, les Trolls 3 qui rentrent dans la bataille avec la patte patrouille, la super patrouille. Force est de constater que malgré sa perte de 46% d'entrées, la patte patrouille reste quand même devant les Trolls 3. Ils ajoutent 257 000 entrées et cumulent
déjà au bout de 10 jours hors vacances scolaires, déjà 900 000 entrées. Autant dire que la voie royale est ouverte pour la Pâte Patrouille et le chemin vers les 2 millions, 2,5 millions d'entrées semble, en tout cas, sauf gros tarissement, tout tracé pour le film.
Ouais, je voulais signaler d'ailleurs un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a je suis allé le voir ce week-end avec ma fille, et il y a un court-métrage avant le film, certainement imposé par Paramount, en tout cas fortement suggéré, de Dora l'exploratrice en version animée, ce qui laisse augurer peut-être, parce qu'on sait que ça fait partie des franchises de Paramount, un développement de ce personnage en version animée. En tout cas, ouais, c'est vrai que la Pâte Patrouille marche bien. Alors, il faut se garder aussi de toute analyse hâtive sur les Trolls 3, comme on l'a vu dernièrement. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit à l'issue du premier week-end sur Élémentaire, où on s'était bien tous trompés, il faut bien le dire, parce que Élémentaire continue de faire des entrées et a fait une carrière phénoménale pour passer les 3 millions. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit aussi sur le Chapeauté 2, où là c'était très difficile d'envisager qu'il passerait aussi les 3 millions. Donc voilà, les choses s'installent. On sait que les habitudes ont changé depuis le Covid et que maintenant aussi les spectateurs sont peut-être moins impatients d'aller tout de suite voir un film en salle. Donc bon, ces films d'animation, on va les scruter de près également.
C'est ça, on donne quand même les chiffres pour les Trolls 3. 248 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Mais en effet, comme tu le dis Aurélien, bien malin, qui pourra donner la fin de carrière des Trolls, vu les coefficients multiplicateurs qu'on connaît post-Covid. Alors on le rappelle, qu'est-ce qu'un coefficient multiplicateur ? C'est la multiplication du nombre d'entrées premier week-end sur la fin de carrière. Et un film comme le film Disney.
Élémentaire.
Élémentaire, il a le record historique puisqu'il a fait x9 de coefficient multiplicateur. Donc difficile de tabler. En tout cas, on peut espérer au moins un x6 pour les Trolls 3.
Tout ça, ça confirme que le marché hein, en ce moment, il est quand même hyper bizarre et non habituel.
Tout à fait.
Oui, on peut plus trop comparer. Enfin, les comparables fonctionnent difficilement, Julien, je crois.
Ah mais il faut jeter tout ce qu'il y avait avant. Il faut reprendre à partir de 2021-2022.
Voilà. Et comme dirait Eric Toledano ici présent en avant-première. Est difficile, le logiciel a changé. Donc, voilà.
J'ai beaucoup lu cette phrase. Voilà. Je parlais plus d'écologie, mais c'est la même chose.
Donc, parmi les continuations, il faut noter quand même des belles continuations, ouais. Et notamment à la 5e place.
Ouais, c'est le champion de la tenue en ce moment. C'est le règne animal dont on parlait tout à l'heure. Après une semaine en positif quasiment, là, il perd que 11% de ses entrées en 3e semaine. Une remarquable tenue pour le règne animal qui cumule désormais presque 600 000 entrées. Un joli résultat pour le film sur le canal qui, on le rappelle, avait démarré plutôt mollement.
Oui, qui suit un peu le chemin de Je verrai toujours vos visages, justement, qui avait terminé, on s'en souvient, au-delà du million d'entrées. Est-ce que ce sera la même chose ? On le souhaite pour Thomas Caillet, et on le dit encore pour ce film qui tente des choses du côté du fantastique.
Ça, pas c'est dû à quoi ? C'est le bouche à oreille ? C'est quoi là ? Là, c'est typiquement le bouche à oreille.
C'est le bouche à oreille, c'est un marché qui remonte avec une envie sur le film, mais c'est aussi, il faut le souligner, le travail aussi de Studio Canal, de l'équipe de programmation qui a fait maintenir le film en salle pour les bonnes raisons.
Et le travail des exploitants aussi, qui mettent le film en avant, hein, faut pas non plus le.
Est-ce qu'il y a une petite prospective de votre part sur le chiffre de fin du règne animal ?
Ah, bonne question. Est-ce qu'on se risque
quelqu'un se hasarde, sachant que ce podcast est conservé 100 ans.
Voilà. Moi, je pense qu'ils peuvent en tout cas dépasser les 900 000. Ils peuvent aller peut-être. Alors, le million, ce sera difficile, mais je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, le film. Mais
ça va passer le million.
Ah. Voilà, il a mis le million sur la table.
Oui. On peut dire qu'on est dans le lièvre et la tortue. Il a commencé tortue et a fini lièvre. Pour rester dans le thème.
On le souhaite en tout cas.
Oui, on le souhaite de toute façon.
Ça sera très mérité en tout cas.
Eh bien, on verra ce qu'il en sera.
Ouais, et de tortue, il en est question sur la fiche de Bernadette, d'ailleurs, qui lui est en 7e position ce week-end, qui perd un peu plus, hein, mais faut quand même pas oublier le fait qu'il perd que 16%, et ce qui est remarquable, et il cumule déjà 572 000 entrées. C'est une carrière un peu en calque hein, entre le règne animal et Bernadette, qui sont sortis, on le rappelle, à la même date, il y a 3 semaines.
Bah, c'est notre Barbenheimer à nous, hein, c'est d'un côté le règne animal.
Bah, c'est le règne Bernadette.
Bernadette vendue comme un peu Barbie par Warner. En tout cas, oui, les deux fonctionnent bien et on souhaite que, que les gens qui vont voir ce film aillent voir d'autres films aussi derrière.
J'espère qu'on va commercialiser la poupée Bernadette.
Ah, ça, écoute, on essaiera de t'envoyer un exemplaire dès qu'elle sera disponible. L'autre, pour finir sur ce top 10, on notera quand même que The Creator se maintient pas mal aussi, sous les moins 30%.
The Creator en quatrième semaine, qui se maintient à moins 29%, il cumule 614 000 entrées à l'issue de son quatrième week-end, ce qui devrait lui permettre aussi de bien tenir pendant les vacances et d'arriver à ces 800 000 entrées qu'on lui avait promis en début de carrière. Et après, pourquoi pas voir un peu plus et potentiellement tutoyer les 900 000 entrées.
C'est moins le cas pour Expendables 4, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, mais 234 338 entrées pour l'instant, ouais, en cumul. C'est évidemment loin du million d'entrées atteint par les précédents.
C'est le calice jusqu'à l'Ali pour Expendables 4, malheureusement. 234 000 entrées avec un moins 40% en deuxième semaine, qui est pas horrible, hein, mais avec un démarrage aussi faible, perdre encore 40% des entrées, c'est compliqué. Vraiment
il n'y aura
compliqué.
Peut-être pas de 5, du coup.
Peut-être pas. Malheureusement, priori, ouais. Malheureusement pour cela.
On va quand même passer ce moment sans trop de difficultés.
Voilà. Et
sinon, ils seront tous dans un EHPAD au bout d'un moment.
Ça peut être un concept. Mais en tout cas, il y a une chose à noter aussi, c'est côté coefficient Paris-Provence, où là, celui à la 10e place se distingue.
Ouais, comme la semaine dernière, c'est Marilyn et son juge, avec un coefficient Paris-Provence de 10, qui se distingue. Alors, on le rappelle une fois de plus pour ceux qui nous
écouteraient pas.
Au Havre, oui, comme le précise Olivier.
Qui nous écouteraient pas chaque semaine. Qu'est-ce que coefficient Paris-Provence? Eh bien, vous prenez les entrées Paris-Périph, vous prenez les entrées province, vous faites votre petit calcul, plus vous êtes proche de 1, plus vous êtes un film parisien, plus vous êtes loin de 1, plus vous êtes un film provincial. Donc là, à 10, forcément, c'est plutôt un film provincial.
Ou régional, pour ceux qui n'aiment pas le terme
régional.
Provincial.
Ok.
Après, quand il n'y aura plus de copies sur Paris, ça peut monter à 20, 40...
Ouais, exactement.
Mais c'est ça aussi, c'est qu'il faut relativiser. Évidemment, les Baudins, c'était parti avec un coefficient très, très fort, parce qu'il n'y a pas de copie.
C'est un coef de 134, c'est ça
À noter d'ailleurs que le coefficient Paris-Provence de l'année difficile est à 4-4, ce qui est pas mal pour une première semaine, ce qui montre quand même aussi que le film s'intègre déjà bien dans les salles de toute la France.
Et pour être tout à fait exhaustif, nous n'avons pas parlé de la sixième position et de l'Exorciste Dévotion, qui est en deuxième semaine, le film d'horreur universel. 412 000 entrées, moins 36%. C'est bien, d'autant plus que le film est dans une semaine de transition, avant la semaine d'Halloween, qui sera sa semaine décisive pour arriver à ces fameuses 700-800 000 entrées dont on avait parlé et espéré pour le film.
Il y aura de la concurrence avec SO10. Mais à noter également, alors la belle surprise quand même de ces derniers jours, et sur laquelle il faut revenir un instant, c'est Léo, le film indien dont on parlait en début d'émission, qui à l'international a très bien marché, distribué en France par Friday Entertainment, habitué aux sorties indiennes sur peu de copies, mais avec une redoutable efficacité, et qui fait 28 000 entrées au cumul. Alors j'ai appris, et ça je ne sais pas si vous êtes au courant, que le prix de place était un peu élevé, enfin était imposé en fait par Friday Entertainment. Il était de 19 euros. Et là, en l'occurrence, donc sur seulement 66 copies, une moyenne de 425 entrées, avec quasiment des chiffres élevés que dans certains Megarama et CGR, et quelques pâtés, mais surtout Megarama CGR. Je crois que Megarama Villeneuve-la-Garenne est loin devant les autres.
Et je crois que le Grand Rex avait proposé aussi le film sur quelques séances, il me semble.
Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un vrai phénomène. On l'a déjà souligné, les films indiens en France, il y a quelque chose qui se passe.
Et on vous le redit, si vous avez 3-4 heures, vous l'avez fait pour Killer of the Flower Moon,
il est plus court, je crois que c'est juste 2h30.
Il faut vraiment assister au moins une fois dans sa vie à une projection de film indien, c'est complètement fou.
Voilà, à noter également que le procès Goldman ne perd que 31% et arrive tranquillement aux 300 000 entrées, 278 000 entrées pour l'instant, et qu'Anatomie d'une chute en est à 1 237 000 entrées. Il perd un petit peu là, il n'est plus qu'à 16 000 entrées. Mais voilà ce qu'on pouvait dire. Tom, tu voulais ajouter quelque chose? Il y aura évidemment beaucoup d'autres films qu'on pourrait mentionner, mais je crois qu'on a fait le tour des films essentiels.
Peut-être terminer sur le démarrage de Sacerdoce chez Sage Distribution, documentaire. qui termine avec quasiment 20 000 entrées. C'est pas mal, mais ils sont quand même sortis sur 144 copies. Donc ça fait une petite moyenne de 113 entrées par copie.
Merci beaucoup, Tom. On va terminer, évidemment, comme le veut la tradition, cette émission par les tendances de la semaine prochaine, avec d'abord un aperçu du sondage X, ex-Twitter mis en place par Mafili ce matin. Alors je crois que dans ce sondage, on a le nouveau film de Philippe Lachaud. Tarek Boudali, excusez-moi, la réalisation, je ne sais plus. Mais donc 3 jours max.
3 jours max, on a aussi le nouveau film d'Albert Dupontel, Le Syndrome des Amours, et The Old Oak.
De films de Ken Loach.
De Ken Loach, absolument. En première position, on retrouve avec 56% des votes le film d'Albert Dupontel qui arrive en premier. Deuxième position, on a le film de Ken Loach, The Old Oak. En troisième position, le film de Tarek Boudali de Studio Canal, 3 jours max. Et enfin, le syndrome des amours passés.
Merci beaucoup pour cette première tendance. Alors, ce ne seront pas les seules sorties. Il y en a 12 au total. On a déjà cité 3 jours max, qui a beaucoup aussi d'entrées d'avant-première. Second tour également, qui, on l'avait souligné aussi, a plusieurs entrées, plusieurs dizaines de milliers d'entrées d'avant-première derrière lui. On ne sait pas encore le chiffre exact. Sodis, je l'ai mentionné tout à l'heure. The Old Oak, on l'a mentionné également au côté du pacte. Le syndrome des amours passés chez KMBO, Sodis chez Metro, je le disais, Katak le brave Beluga chez Eurozoom, ça c'est côté animation, The Pod Generation chez Jour de Fête, Le Vourdalak chez The Jokers, Sissi et moi chez Kino Vista, Chambre 999 c'est chez New Story, et puis après on passe sur les sorties qui seront sur moins de 10 écrans. Alors on a un pont au-dessus de l'océan, est-ce que je vais vous avoir le distributeur? Oui, écran sud, écran sud. Marin des montagnes, là c'est chez Film des deux rives. Et c'est tout déjà, c'est déjà pas mal. Avec quand même parmi les reprises, je tiendrai à signaler la reprise de Faux Semblant de Cronenberg. Voilà, un beau programme encore pour de nouveautés.
Avec une nouvelle affiche, Faux Semblant.
Oui, tout à fait.
Qui est vachement bien faite.
Auxquelles viennent évidemment s'ajouter toutes les continuations, à commencer par celle d'une année difficile à découvrir évidemment dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup Eric et Olivier pour votre disponibilité.
Merci à vous.
C'est très intéressant. On était bien ici dans ce bureau.
Revenez quand vous voulez.
C'est parfait. On espère que ça vous a plu, ce podcast. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à le partager, à le recommander, à mettre des étoiles sur votre appli. Et nous, on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous et à très vite.